tourner avec nous dans la parole de Dieu, dans l'évangile de Matthieu. Ça fait 2-3 ans qu'on est dans Matthieu. Figurez qu'il nous reste à peu près 12 de messages dans l'évangile de Matthieu. Ça tire à sa fin. Possiblement qu'on va terminer avant l'été. Ou avant de se laisser pour l'été. On va tourner dans Matthieu, au chapitre 24, verset 36. On va lire une toute petite section ce matin. C'est-à-dire qu'on va aller jusqu'à la fin du chapitre 25. D'accord? Matthieu 24, 36, jusqu'à la fin de Matthieu 25. C'est notre sœur Élie qui va nous conduire dans les Écritures. Si vous avez besoin d'une Bible ouverte, j'aurais dû le mentionner, juste lever la main, on vous apporte une Bible, tournez dans Matthieu. Alors, vous êtes avec nous, Matthieu 24, 36, on va écouter la lecture de la parole de Dieu.
Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne les connaît, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Comme au jour de Noé, ainsi en sera-t-il à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de deux hommes qui seront dans les champs, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera occupé de la sorte. En vérité, je vous le dis, il l'établira sur tout ce qu'il possède. Mais si c'est un mauvais serviteur qui se dit en lui-même « Mon maître tarde à venir », s'il commence à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas, il le mettra en pièces et lui fera partager le sort des hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui prirent leurs lampes pour aller à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent pas d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. « Voici l'époux! Sortez à sa rencontre! » Alors toutes ces vierges se levèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent! » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui au festin de noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges arrivèrent aussi et dire « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous! » Mais il répondit « En vérité, je vous le dis, je ne vous connais pas. » Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Il en sera comme un homme qui, en partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur confia ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit en voyage. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagnant 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un trou dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha et apportant 5 autres talents et dit « Seigneur, tu m'avais confié 5 talents et voici 5 autres que j'ai gagnés. » Son maître lui dit « Bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. » « Je t'établirai sur beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et dit, « Seigneur, tu m'avais confié 2 talents et voici 2 autres que j'ai gagnés. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui récolte où tu n'as pas répandu. » J'ai eu peur et je suis allé cacher ton argent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que je récolte où je n'ai pas répandu. Il te fallait donc placer mon argent chez les banquiers et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a, il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous ses anges, il s'assiera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. Nu et vous m'avez vêtu, j'étais malade et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venu vers moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? » Et le roi répondra, « En vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Ensuite, ils diront à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli, nu et vous ne m'avez pas vêtu, malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. » Alors ils répondront eux aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim ou soif, étranger ou nu ou malade ou en prison et ne t'avons-nous pas rendu service? » Alors il leur répondra, « En vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous n'avez pas fait cela à l'un de ses plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. »
Merci beaucoup. Quel passage, hein? Passage d'espérance et un passage à faire trembler. Est-ce que c'est juste? Un passage rempli d'espérance et un passage à nous faire trembler. J'aimerais, avant de dire un mot de prière, juste vous partager une requête et un encouragement aussi. Je veux vous encourager à considérer encore une fois la formation avec Tony Anthony samedi prochain. On n'aura pas d'autres cours de préparation sur l'évangélisation. D'ici, on ne prévoit pas nécessairement d'avoir un d'ici la fin de l'année. On vient de vous partager qu'en septembre, on va avoir un pasteur responsable de l'évangélisation. On est en train de développer le ministère d'accueil ici. Nous avons besoin d'avoir des gens qui sont équipés, prêts à proclamer l'évangile de Jésus-Christ. Alors, c'est une belle occasion, une journée de formation pour traverser ces sujets-là, placer des choses dans votre esprit pour pouvoir bien articuler la foi, bien articuler l'Évangile. C'est une opportunité vraiment très, très bonne. On a pris le temps de regarder le matériel. C'est assez équilibré, c'est assez complet. Et ça attaque aussi non seulement la présentation de l'Évangile, mais des craintes ou des obstacles qu'on rencontre lorsqu'on veut annoncer le salut en Jésus-Christ. Alors, je vous encourage à considérer ça. Allez vous inscrire tout à l'heure à la table. Ça va être traduit de la même manière que la conférence avec Tony Anthony le vendredi soir. Il va y avoir la traduction. Alors, ça va être français-anglais. Une requête de prière, et je vous la partage pour que vous puissiez prier pour ça cette semaine. Notre sœur Diane Maltais a perdu cette semaine accidentellement, donc c'était totalement imprévu, une belle sœur à elle, Myriam Larouche, âgée de 49 ans. Elle est décédée dans un accident mortel. Et donc, le plus jeune frère de Diane est maintenant veuf. Si je comprends bien, ils sont auprès d'eux. Je vous demande de prier pour la famille Maltais, de prier pour Diane, de prier pour le témoignage à travers tout ça, que le Seigneur vienne mettre sa main sur eux. Ça fait deux situations qui arrivent dans la dernière année. Alors, on va aller ensemble dans un mot de prière, d'accord? Père éternel, j'aimerais t'amener notre sœur Diane, te demander, Seigneur, de mettre ta main sur son cœur, te demander, Seigneur, de venir remplir sa bouche de paroles édifiantes, de placer dans son cœur plein de consolation, Seigneur, à apporter à son frère. Et dans ta grâce, Seigneur, d'une manière que toi seul peux faire, permets, Seigneur, que ton évangile soit proclamé. Permets, Seigneur, que la consolation vienne par la prédication de ton évangile. Tu es souverain, Seigneur, d'envoyer tes enfants auprès de cet homme qui maintenant est face à la mort comme on ne devrait pas être face à la mort si tôt dans notre vie, Seigneur. Viens dans ta grâce, amener l'évangile à travers tout cela, Seigneur. Bénis le témoignage des Maltais dans la famille. Père, j'aimerais te prier pour nous ce matin. Seigneur Jésus, tes paroles ont résonné avec puissance dans mon cœur cette semaine. Cette exhortation vive, Seigneur, à se tenir prêt, à être trouvé dans le champ, dans le travail, dans la moisson, Seigneur, en attendant ton retour. À voyager léger, à être toujours prêt à partir, à ne pas s'installer ici-bas, Seigneur. Ma prière, Seigneur Jésus, c'est que tu rendes cette promesse que tu as donnée, promesse de revenir nous chercher, forte dans nos cœurs, Seigneur. Que tes paroles résonnent en nous avec puissance, afin que nous vivions ici comme des pèlerins, Seigneur, non comme des citoyens de la terre, mais comme attendant notre roi et son retour imminent, toujours imminent, Seigneur. Viens parler à nos cœurs, viens nous aider à accepter, Seigneur, ton sacrifice à la croix et le jugement éternel dont il peut nous sauver si nous croyons en toi, Seigneur. Viens nous aider à accepter ce Dieu saint et juste qui rendra justice. Je te prie, Seigneur, d'être avec ma bouche et avec mon cœur. Je suis si petit pour annoncer des choses si grandes et si importantes. Remplis-moi de ton esprit, je t'en supplie, dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Matthieu 24, 36, jusqu'à la fin de Matthieu 25. Si vous avez la Bible ouverte avec moi, vous allez pouvoir le voir un peu graphiquement. Matthieu 24, 36, jusqu'à la fin de Matthieu 25, c'est une longue section. Tout ceci est en fait une réponse, la réponse de Jésus à la question que les disciples ont posée à Jésus un chapitre plus tôt. Matthieu 24, au début, verset 3. D'accord? Les disciples posent une question à Jésus. Jésus, c'est un verbomoteur. Alors, il part. Et il répond pendant deux chapitres. C'est bon? Vous devez le voir comme ça pour comprendre. C'est quoi la question? Matthieu 24, verset 3. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Jésus vient de faire une prophétie extrêmement troublante. Au verset 2, il dit, vous voyez le temple, vous voyez tout ça va être détruit. Alors les disciples ont une question. Verset 3. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? » Tous ces événements-là sont rassemblés dans leur esprit, un peu confus. Ils ne savent pas exactement comment ça va se dérouler. Ils veulent savoir quand ça va se passer, ça, Seigneur. Jésus répond dans Matthieu 24, 36, « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. » Et tout ce qui va suivre, la fin du chapitre 24, le chapitre 25, Jésus va nous dire, puisque vous ne savez pas quand ça va se produire, soyez prêts. Soyez toujours prêts. Alors, tous ceux qui vous annoncent quand le Seigneur vient, 2012 et toutes ces inepties-là, de grâce, si le Fils de Dieu, qui savait qu'il allait être arrêté, crucifié, qu'il allait ressusciter. Si lui qui connaissait le cœur de l'homme et le cœur de Dieu ne sait pas quand est-ce qu'il va revenir, de grâce. Soyons pas si prétentieux pour pouvoir dire ce que le Seigneur Jésus ne sait même pas lui-même. Non? Seul le Père le sait. Seul le Père le sait. Et ce qui nous importe à nous de savoir, c'est comment être prêt pour son retour. C'est bon? Alors, mettons de côté toutes ces spéculations et toutes ces histoires. Il y a seulement le Père qui sait ça. Soyons prêts, demeurons prêts. Il y a une certitude seulement, c'est qu'il va revenir. Maintenant, avant de regarder avec plus d'attention le chapitre 25, je voudrais attirer votre attention sur le moment où tout ceci se déroule. Il y a quelque chose de fantastique avec Jésus quand tu commences à le fréquenter, quand tu commences à marcher avec lui, à écouter ses enseignements, à lire les Écritures. Tu découvres un personnage qui est à la fois 100% homme, mais en même temps, de plus en plus, tu réalises qu'il est aussi 100% Dieu. Alors, Jésus a une vision des choses qui n'est pas notre vision des choses. Toutes ces réponses qu'il est en train de donner où il parle de son retour, qui n'est pas encore fait, ça fait 2000 ans, il n'est pas encore revenu. Tout ça se passe quelques jours avant sa crucifixion. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Jésus a une vision du temps qui n'est pas la nôtre. Jésus voit le plan, les desseins qu'il a conçus avec son Père, et il connaît toute leur réalisation, toute leur implication. Jésus parle de son retour, il n'est pas encore crucifié. On est à ce moment-là dans l'histoire de l'humanité, au moment où Jésus parle de son retour qui n'est pas encore accompli. Regardez avec moi le début du chapitre 26. Vous allez voir, on va se promener pas mal ce matin. Matthieu 26, versets 1 et 2. « Lorsque Jésus eut achevé tous ses discours, il dit à ses disciples, « Vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours. Vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. » On est à ce moment-là, on est à la veille de son arrestation, de sa crucifixion, et Jésus est en train de penser à son retour qui va avoir lieu des siècles plus tard. Ce n'est pas la première fois que Jésus emploie ce langage-là avec ses disciples pour parler de son arrestation, de sa crucifixion. Il le fait à plusieurs reprises. Je vais vous faire tourner dans quelques passages. Tournez avec moi dans Matthieu 17. Matthieu 17. Verset 22. Pendant qu'ils parcouraient la Galilée, Jésus leur dit, « Le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir et le troisième jour, il ressuscitera. » Ils furent profondément attristés. Bien sûr, ça ne rentre pas dans leur projet à eux. Ils s'en vont avec le roi, le Messie, pour entrer dans son règne. Mais lui qui voit toutes choses sait qu'il n'en sera pas ainsi, que les choses doivent se dérouler ainsi. Il doit être arrêté, il doit être crucifié. Matthieu 20, verset 17, je crois. Matthieu 20, 17 à 19. Pendant que Jésus montait à Jérusalem, il prit à part les 12 disciples et il leur dit en chemin, « Voici, nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort et ils le livreront aux païens pour qu'ils se moquent de lui, le battent de verge et le crucifient. Et le troisième jour, il ressuscitera. » Évidemment, le passage où on est dans Matthieu 26, c'est-à-dire le chapitre juste après qu'on vient de lire, Matthieu 26, les versets 1 à 4. Jésus emploie encore une fois le même langage, mais un petit peu plus loin aussi dans le chapitre 26, alors qu'il va prendre un temps à l'écart avec ses disciples. Verset 20. Le soir étant venu, Matthieu 26, 20, le soir étant venu, il se mit à table avec les 12. Pendant qu'il mangeait, il dit, « Je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. » Ils furent profondément attristés et chacun se mirent à lui dire, « Est-ce moi, Seigneur? » Et il répondit, « Celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est celui qui me livrera. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui, mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne soit pas né. » Judas, qui le livrait, prit la parole et dit, « Est-ce moi, Rabbi? » Jésus lui dit, « Tu l'as dit. » Pourquoi est-ce que je vous partage ça? Pourquoi est-ce que je souligne cette insistance de la part de Jésus à dire, à annoncer ce qui est en train de s'en venir pour lui, ce qui l'attend? Deux raisons principales. Évidemment, premièrement, réaliser que Jésus savait. On n'est pas en présence seulement d'un homme. Nous sommes en présence d'un être qui dépasse notre simple humanité. Il est à la fois entièrement homme, il va mourir sur cette croix. Il va mourir comme un homme mourrait. Donc, il est homme, mais il est plus que cela. Il sait à l'avance qu'il s'en vient. D'accord? Alors, premièrement, Jésus sait, il sait ce qu'il attend. Mais deuxièmement, je veux souligner le fait que Jésus est en train de préparer ses disciples. Jésus a cherché à préparer à plusieurs reprises ses disciples, afin que lorsque cela va se produire, ils ne soient pas surpris de ce qui arrive. Vous allez me dire, ça a plus ou moins marché. Ils se sont tous sauvés, n'est-ce pas? Fait que la préparation était plus ou moins efficace. Mais en même temps, je crois que Jésus est en train de se dévoiler à eux. Je pense que Jésus est en train de révéler qui il est comme personne dans sa grandeur, dans sa beauté, et que les disciples vont repenser à ces paroles de Jésus après son arrestation, après sa crucifixion, après sa résurrection, après son ascension, lorsqu'ils vont être assis ensemble et vont discuter. Mais quel être incroyable! Vous rappelez-vous qui nous avait annoncé tout ça? Réalisez-vous qu'il essayait de nous préparer à cela? Et dans la réalité, ce qui va se produire dans les années qui suivent ça. D'accord? Tout ça, là, ça dure quelques jours, quelques trentaines de jours, puis Jésus part. Mais dans les années qui vont suivre, les apôtres vont méditer sur ces choses. Et plus ils vont méditer, plus ils vont mettre les pièces du casse-tête ensemble, plus ils vont saisir la grandeur de Jésus-Christ. Au début, pour eux, c'était celui qui marchait avec eux, qui les enseignait, celui qui prenait autorité dans des situations spéciales. C'était le faiseur de miracles. Tout le monde aurait voulu avoir un faiseur de miracles dans sa poche, juste à côté de lui, tu sais, puis arrive un obstacle, tu sors ton magicien, puis pouf, il fait un miracle. Mais là, tranquillement, il s'est révélé à eux, puis ils ont dit, non, attends un peu, c'est le Messie, c'est pas juste un prophète, un faiseur de miracles, c'est le Messie. Mais attendez, dans les années qui vont venir, ils vont réaliser qu'il est, non seulement il est le Messie, mais il est le Fils de Dieu dans un sens plus profond que ce qu'on aurait réalisé. Et éventuellement, les apôtres vont en venir à dire, mais il est Dieu incarné. Tournez avec moi dans Jean 1, s'il vous plaît. Juste pour se donner une idée de la compréhension de la personne de Jésus que les apôtres ont eue avec le temps. Ce n'est pas venu par eux-mêmes, c'est par des révélations de Dieu, c'est parce que l'Esprit a continué à faire tomber les choses en place dans leur esprit, parce qu'ils étudiaient l'Ancien Testament et ils voyaient la grandeur de Jésus-Christ. Mais lorsqu'on lit le début de l'Évangile de Jean, on réalise qu'aux yeux de Jean, Jésus, ce n'est plus juste un faiseur de miracles. Jean 1:1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Oh! Jésus a pris toute une dimension à ses yeux, là. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Verset 9. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Des années plus tard, lorsque Jean est assis à son bureau et qu'il veut parler de Jésus, voici comment il introduit l'histoire de Jésus. « Laissez-moi vous parler d'un homme qui était plus qu'un homme, car il était Dieu fait homme. Laissez-moi vous parler d'un être qui ouvrait la bouche et la chose s'accomplissait. Laissez-moi vous parler d'un être qui nous avait annoncé qu'il serait arrêté et crucifié, et parce qu'il l'a dit, la chose s'est accomplie. » Pourquoi je vous parle de tout cela? Pourquoi est-ce que je prends le temps de souligner cette prophétie de Jésus? Jésus avait annoncé à l'avance son arrestation. Bien, voyez-vous ce que Jésus fait dans le chapitre 24 et puis ensuite de ça dans le chapitre 25? C'est un peu la même chose qu'il est en train de faire. Jésus connaît notre humanité. Il sait à quel point nous avançons par la vue. Nous sommes des êtres de courte vue. On regarde en avant et si on ne le voit pas, on doute. Alors, de la même manière que Jésus s'est appliqué des mois à l'avance à dire à ses disciples, je vous le dis, là, il y a quelque chose qui va se passer comme un cataclysme. Vous êtes avec moi, vous vous sentez en sécurité, je suis à vos côtés. On peut traverser une tempête, j'ai juste à ouvrir la bouche, boum, la tempête se calme. Mais là, il va se passer quelque chose, vous n'en reviendrez pas, on va m'arrêter. Vous allez avoir l'impression que je perds le contrôle de la situation, que je ne suis plus au contrôle. Je vous le dis, ça va se passer comme ça. On va m'arrêter, on va me battre, on va me crucifier, on va me mettre à mort. Je ressusciterai. De la même manière que Jésus avait cherché à préparer ses disciples, de la même manière, il cherche à nous préparer, nous, pour son retour. Parce que ça a l'air que ça va être long. Ça a l'air qu'on ne pourra pas le prévoir. Ça a l'air qu'il faut juste qu'on soit toujours prêt. Voyez-vous, Jésus fait exactement la même chose dans le chapitre 25, en répétant qu'il va venir, en répétant qu'il faut toujours être prêt pour son retour, en répétant qu'on va avoir l'impression qu'il tarde, on va avoir l'impression qu'il n'est pas là. Lorsque Jésus annonce ces choses à l'avance, lorsqu'il annonce à l'avance à ses disciples qu'il va être arrêté, qu'il va être crucifié, il n'est pas seulement en train de les préparer, il est en train de se dévoiler lui-même. Il est en train de donner une révélation de sa personne. Il est en train de dire, je ne suis pas juste un faiseur de miracles, les amis. Je suis celui qui dit une chose et cette chose s'accomplit. Et si je vous dis que je vais me faire arrêter, je vais me faire arrêter. Et personne ne va pouvoir m'empêcher de me faire arrêter parce que c'est le plan que j'ai conçu avec mon Père. Alors, ils vont l'accomplir, ils vont m'arrêter, ils vont me crucifier. Je vous en donne la promesse. Je vais ressusciter aussi. Quand vous aurez des doutes plus tard, pensez à ça, parce que je vous promets aussi que je vais revenir. C'est celui qui disait aux morts, « Lève-toi et marche. » C'est celui qui disait à la tempête, « Calme-toi. » Qui a dit, « Ils vont m'arrêter, me crucifier et je ressusciterai. » qui nous a dit, « Je reviens bientôt, les amis. Soyez prêts. » Jean nous dit, il était là au début de la création. C'est lui qui a dit, « Terre, sois. Cieux, soyez. » Et la chose fut. Est-ce qu'il va revenir? Est-ce que sa parole est digne de confiance? Pour que vous soyez en paix, pour traverser des tribulations, des luttes, des épreuves, pour traverser toute cette période d'attente jusqu'au retour du Seigneur, pour que nous soyons en paix pour traverser tout cela, il faut saisir qui est Jésus-Christ. Il faut être émerveillé par sa grandeur et sa beauté. Il n'était pas qu'un prophète. L'histoire ne s'est pas mal terminée. Il était en train d'accomplir parfaitement tout ce qu'il avait décidé d'accomplir avec son Père, selon sa volonté. Il a donné une promesse et il a tenu sa promesse. Ils l'ont crucifié, il l'est ressuscité, il tiendra l'autre promesse de revenir dans sa gloire. Une autre raison pour laquelle je mets ces deux éléments-là en perspective, lorsqu'on est au chapitre 26, les versets 1 et 2, Ça nous rappelle que lorsque Jésus annonce son retour, lui, il a en tête sa crucifixion. Les deux choses sont en même temps, dans le sens qu'elles sont aussi certaines pour lui. Dans le chapitre 25, Jésus prononce des paroles qui sont troublantes. Parce que Jésus, en fin de compte, dit qu'à tout homme est réservé deux destinées possibles pour l'éternité. Deux destinées éternelles, point. Il y a deux options, A ou B. Et il répète ça à plusieurs reprises dans un langage qui est sans équivoque. Regardez avec moi le chapitre 24, verset 51. Il mettra en pièces, il les mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Ce langage-là dans l'évangile de Matthieu, c'est la damnation éternelle. Constamment dans le langage de Matthieu. Verset 12, 25, verset 12, il leur dit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. » Verset 30, « Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. » Voyez-vous, à plusieurs reprises, Jésus passe de la parabole à un langage qui semble assez littéral. Et là, à la fin, évidemment, avec la dernière section, les versets 31 jusqu'à la fin, c'est sans équivoque. Verset 46, « Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. » Il y a une idée qui circule parfois, même dans chez ceux qui professent le nom de Jésus-Christ, on appelle ça l'annihilation de l'âme. Un grand terme pour dire... Un Dieu bon ne laisserait pas des gens souffrir éternellement. Alors, cette idée-là, c'est simplement que, je vais le dire avec sarcasme, d'accord? Mais pour moi, ça représente la folie de cette pensée-là. Dans ta vie, tu décides d'honorer Dieu et tu seras béni par Dieu éternellement. Si tu décides de rejeter Dieu, on te donnera 3-4 tapes ses fesses et après, tu cesseras d'exister. Ça, c'est l'idée de l'annihilation de l'âme. C'est-à-dire qu'après, au jour du jugement dernier, ceux qui n'auront pas décidé de marcher avec Dieu se verront éventuellement détruits. Parce que c'est inconcevable dans leur pensée que Dieu damne éternellement quelqu'un. Maintenant, dans un passage comme celui-là, dans Matthieu 25, verset 46, c'est difficile, là. C'est difficile de faire rentrer une idée semblable. Jésus est assez clair. Il dit, « Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. » Si le châtiment n'est pas éternel, la vie non plus n'est pas éternelle. Et laissez-moi vous dire que Jésus n'est pas venu mourir sur la croix pour nous sauver pour quelques années. Jésus est venu mourir sur la croix pour sauver des âmes qui vont être éternellement dans la félicité avec lui. Et si la vie est éternelle dans ce passage, le châtiment est éternel. Mais voyez-vous, nous sommes tellement étrangers à la sainteté de Dieu. Ces choses-là sont tellement étrangères à nous. Nous sommes nés dans le péché, nous sommes pécheurs, incapables de concevoir vraiment qui est Dieu dans sa sainteté. Nous, on trouve toutes sortes d'excuses pour le péché parce que nous sommes nous-mêmes profondément pécheurs. Mais Dieu nous dit dans sa parole qu'un jour, il viendra exercer la justice. Et tous ces viols, tous ces abus, tous ces mensonges, toute cette corruption paraîtra en justice devant lui. Mais pour accepter cela, pour comprendre cela, j'ai besoin de saisir qu'on est à la veille de sa crucifixion. Jésus-Christ est venu mourir sur une croix pour nous sauver pour l'éternité et ceux qui mépriseront la grâce du salut en Jésus-Christ seront damnés pour l'éternité. Et ce qui me réconcilie avec ce Dieu merveilleux, C'est la croix. C'est son sacrifice. Christ n'est pas mort sur la croix pour épargner 3-4 tapes ses fesses à des gens. Christ est mort sur la croix pour que nous soyons sauvés pour l'éternité. Amen. Et c'est l'Évangile que nous annonçons parce que c'est l'Évangile de la parole de Dieu. Chapitre 24 et la suite. C'est un passage relativement simple, je vous avoue, contrairement à l'autre avant. Jésus, par différentes paraboles, par différentes histoires, va nous dire, tenez-vous prêts. Il va répéter l'idée qu'on ne peut pas savoir c'est quand le moment. Et ne jouons pas avec les mots, s'il vous plaît. OK, on ne sait pas l'heure, le jour, mais on peut savoir le mois, par exemple. Non. Ce qui est sûr, c'est qu'on va être surpris. Ça, c'est certain. Alors, il commence simplement et puis il dit, voici, les gens vont faire comme si Dieu ne devait jamais revenir, comme si Jésus-Christ n'allait jamais venir. Ils vont faire leur train-train quotidien. Certains vont même en venir à se laisser aller. Oh, ils ont cru. Ils pensent avoir accepté Jésus-Christ, mais éventuellement, ils s'installent sur la terre et décident de retourner à leur ancienne vie, à profiter des gens, à abuser des gens autour d'eux. D'autres ne seront pas prêts à tout moment pour son retour. Et on a cette histoire avec ces amis de l'épouse, les jeunes filles vierges, ce sont ces amis de l'épouse qui vont accompagner l'époux avec ses amis pour entrer dans la salle de célébration. Mais certaines amies de l'épouse ne sont pas prêtes. Toutes sont surprises, remarquez. Hein? Vous n'arriverez pas à être prêts et à dire, OK, il y a un countdown, il s'en vient dans 5 minutes, on fait le ménage. Vous n'arriverez pas à le faire. Je n'arriverai pas à le faire, personne. Toujours prêt. Ensuite de ça, dans la parabole avec les talents, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, bien, non seulement vous devez être dans l'attente comme cloîtré dans un monastère, en train de dire, là, moi, je ne veux pas vivre dans le péché parce que le Seigneur peut revenir à tout moment. Non, vous devriez être dans le champ, dans l'œuvre, dans la moisson, en train de faire profiter tout ce que Dieu vous a donné pour l'avancement de son royaume. C'est ça qu'il est en train de dire ici. On doit être dans l'action. Et puis avec la dernière partie, les versets 31 et suivants, on a quelque chose d'étrange où Jésus est comme en train de quitter la parabole. Il y a une parabole, je ne pense pas qu'on est vraiment des moutons ou des boucs. Je pense qu'on demeure des êtres humains. Fait qu'il y a encore un langage imagé, mais c'est juste quelques phrases très, très courtes. Le Fils de l'homme, verset 31, viendra dans sa gloire avec tous les anges. Il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns des autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs, et il mettra les brebis à sa droite, les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Lorsque Jésus revient, il est roi, et nous entrons dans la félicité éternelle. Nous entrons dans ce que nous attendons. Ça veut dire que jusqu'à son retour, on est entré puis on n'est pas entré. On vient de le voir la semaine dernière. Jusqu'à son retour, nous souffrirons pour le nom de Jésus-Christ. Jusqu'à son retour, il y aura des séducteurs qui vont vouloir nous prêcher un autre évangile que celui de Jésus-Christ. Jusqu'à son retour, nous allons voir des gens tomber dans la course, abandonner la foi dans la course jusqu'à la fin. Maintenant, remarquez dans le passage ici, personne n'est surpris. Aucun des deux parties est surpris par la décision. La surprise n'est pas là. La surprise est ailleurs. Et je trouve ça intéressant ce que Jésus fait ici dans le texte. Ceux qui sont condamnés ne sont pas surpris d'être condamnés. Ceux qui sont appelés à entrer dans la félicité ne sont pas surpris aussi. Ce qui les surprend, c'est la raison que Jésus évoque ici. Et je pense que Jésus est en train de se concentrer sur le fait que ça doit paraître dans nos vies que nous sommes chrétiens. sur le fait que ça doit se traduire dans nos vies que nous sommes chrétiens. Il va parler des œuvres que nous sommes censés porter. Il dit à certains, « Vous allez entrer dans la félicité, vous allez prendre possession du royaume parce que vous m'avez fait du bien, parce que vous avez fait du bien à ces petits, à mes frères. » Tournez avec moi dans un autre passage de l'Évangile selon Matthieu qui nous aide à comprendre de qui il parle ici. Matthieu 10, verset 39. Jésus a déjà utilisé cette même expression et on peut savoir de qui il parle lorsqu'il dit « faire du bien à ces gens-là ». Est-ce qu'il est en train de dire que finalement, ce qui est important, c'est de faire du bien à tous les hommes, d'aller vers les pauvres, de prendre soin des gens qui sont pauvres, de prendre soin des gens qui souffrent? Et chaque fois que je suis en train de prendre soin d'un pauvre, bien, dans un sens, je suis en train de le faire à Jésus-Christ lui-même. Ça aurait pu être ça. Je ne pense pas que c'est ça qui est question ici. Matthieu 10, verset 39. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Celui qui vous reçoit me reçoit, et celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète reçoit une récompense de prophète, et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits parce qu'il est mon disciple, je vous le dis, en vérité, il ne perdra point sa récompense. En d'autres mots, ce que Jésus est en train de dire ici dans Matthieu 25, c'est non seulement qu'on doit être prêt à son retour à tout moment, qu'on ne doit pas trouver là-dedans un prétexte pour se laisser aller dans le péché et retourner à notre ancienne vie, qu'on doit être dans la moisson puis en train de prendre toutes les ressources qu'on a pour le servir. Mais je pense que ce que Jésus est en train de dire ici, c'est que nous devons être en train de chérir le nom de Jésus-Christ et tous ceux qui portent le nom de Jésus-Christ. Il vient de nous dire au chapitre 24 qu'il va y avoir des persécutions, qu'il va y avoir des souffrances, qu'il va y avoir des douleurs. Mais savez-vous quoi? Nous avons des frères et sœurs qui passent par les épreuves, qui passent par les douleurs, qui passent par les souffrances. Allons-nous chérir le nom de Jésus-Christ et concrètement passer à l'action? C'est une chose de professer que je suis un disciple de Jésus-Christ, c'est une autre chose d'aimer ceux qui aiment Jésus-Christ. Et lorsque nous accueillons des gens qui ont passé par des séismes en Haïti et qui arrivent ici démunis de toutes choses, et que nous sommes là et qu'on veut les aider, qu'on veut les aimer, on est en train de faire du bien à Jésus-Christ. Ce sont des fils de Dieu, des filles de Dieu, des héritiers. Et lorsqu'on va vers eux et qu'on se dépouille nous-mêmes pour les aider, nous sommes en train de bénir Jésus-Christ. Lorsque je m'en vais vers mon frère, ma sœur qui porte le nom de Jésus-Christ et qu'on a un conflit ensemble et que je m'en vais lui faire du bien, je m'en vais le bénir, je m'en vais l'aimer, je suis en train de faire du bien à Christ. Ma profession de foi n'est pas seulement théorique. Je ne suis pas en train de porter un T-shirt qui dit « I love Jesus ». Parce qu'à beaucoup de ceux qui portent des T-shirts « I love Jesus », Jésus va dire « Arrière de moi, je ne t'ai jamais connu. Ton tatou ne fait pas l'affaire, mon homme. Je veux le voir dans ta vie. Je veux le voir avec tes biens, avec tes richesses, avec ton temps, avec ton énergie. Je veux te voir aimer les frères et sœurs. » Frères et sœurs, Jésus-Christ va revenir. Lorsqu'il dit quelque chose, sa parole s'accomplit. Pour nous, le temps peut paraître long, ça peut paraître difficile. Et pour cette raison, plusieurs vont tomber. Ils vont être entraînés vers d'autres évangiles. Ils vont dire, « Ah, ça ne m'apporte pas tout le bonheur et la joie que je voulais. Ah, il y a encore des souffrances. Je pensais que ça allait mettre de l'ordre dans mes finances, dans ma vie, que j'allais avoir du succès sur la terre. Je pensais que mes relations allaient être faciles, mais il y a plein de souffrances qui accompagnent le fait de porter le nom de Jésus-Christ. » Et il y en a qui vont abandonner ayant le sentiment que Jésus tarde dans l'accomplissement de ses promesses. Mais Jésus avait promis qu'on l'arrêterait et qu'on le crucifierait. Il a tenu ses promesses. On l'a arrêté, on l'a crucifié. Il avait promis qu'il ressusciterait. Il a tenu ses promesses. Il est ressuscité d'entre les morts. Il a promis qu'il reviendrait. Il est la parole de Dieu. Lorsqu'il dit la chose est, il va revenir. Entre-temps, est-ce qu'on va être des chrétiens professant le nom de Jésus-Christ ou est-ce que nous allons être trouvés comme des chrétiens qui marchent avec Jésus-Christ, qui souffrent avec ceux qui souffrent, qui pleurent avec ceux qui pleurent, qui donnons notre argent, notre temps, nos énergies à faire avancer l'œuvre du royaume. Et lorsque Christ va revenir, il va nous dire, entre en possession du royaume. Entre enfin dans le repos. Frères et sœurs, la croisière est pour plus tard. Pour l'instant, on est en mission. Et ça doit paraître dans nos vies et dans la vie de cette Église. Si Dieu te demande d'aimer tes ennemis, c'est peu de choses, peu de souffrances en perspective de la grâce qui nous est annoncée. Si Dieu te demande de donner un peu de ton argent pour faire avancer la mission, c'est peu de souffrance en perspective de la félicité qui nous attend. Si Dieu te demande de donner ton temps, c'est peu de choses en perspective de ce qui nous attend. Si Dieu te demande de partager ta voiture, ta maison, c'est peu de choses. Si Dieu te demande de pardonner à quelqu'un qui t'a fait du mal, c'est peu de choses. Parce qu'il va revenir et on veut entrer dans la gloire avec lui. On va prier. Seigneur Jésus, j'ai connu que tu es vrai. J'ai connu la grâce d'être touché et d'être pardonné, Seigneur. J'ai connu la paix de savoir mes péchés enlevés, Seigneur Jésus. J'ai connu, Jésus-Christ, que tu es vrai, que ce que tu dis s'accomplit. Je désire par ta grâce être trouvé fidèle, Seigneur. Je désire par ta grâce être prêt à donner tout de moi parce que j'attends ton retour, Seigneur. Et Seigneur, je crois que tu ne tardes pas. Je crois, Seigneur, que tu uses de patience envers les hommes parce que tu veux, Seigneur, que le plus grand nombre entre dans la félicité éternelle, Seigneur. Par ta grâce, que cette Église soit trouvée fidèle pour proclamer ton Évangile. Que cette Église soit trouvée fidèle pour vivre ton Évangile au quotidien, Seigneur. Seigneur, que cette semaine, je sois trouvé fidèle dans le champ, dans la moisson, toujours prêt à ton retour. Seigneur, j'aimerais te demander si des gens dans cette salle ont des péchés, ont des combats, ont des idoles dans leur vie, ont des attaches qui les lient à cette terre, à cette vie, au Dieu de ce siècle et qui les empêchent de faire la course à fond de train. Seigneur, je te demande de saisir leur cœur à cet instant, de les aider à te donner entièrement toutes choses, Seigneur. À te donner leur bien matériel, à te donner, Seigneur, leur ego, leur orgueil, leur fierté personnelle qui les empêche d'aller se réconcilier, à te donner, Seigneur, leurs enfants, à les laisser entre tes mains pour te chérir avant même leurs enfants, à te donner, Seigneur, leur épouse, Seigneur. Pour qui ils se préoccupent peut-être davantage que de toi, Seigneur. À te donner les plaisirs de cette vie pour prendre plaisir en toi, Seigneur. Viens le faire maintenant par ton esprit. Viens, Seigneur, saisir les cœurs maintenant. Dans ta grâce, je t'en prie. Afin que nous soyons prêts en sortant d'ici ce matin. À ce que ton retour se produise à tout moment. C'est dans le nom de Jésus-Christ que je te prie. Amen.